Salut à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Point de vue. Aujourd'hui, après 3 ans de guerre, les Canadiens manifestent leur soutien à l'Ukraine dans les plus grandes villes du pays.
C'est notre cri, notre message au monde qu'il faut vraiment réagir. Il faut que l'Europe réagisse, que tout le monde entier réagisse.
Alors que le Festival du Voyageur battait son plein au Manitoba, une trentaine de jeunes venus des différentes provinces et territoires explorent ensemble, à Winnipeg, leur trait commun.
C'est vraiment spécial pour moi de pouvoir être là puis d'avoir un peu cette ambiance plus communautaire, culturelle, qu'on a moins souvent la chance de voir à Vancouver.
Les demandeurs d'asile seraient surreprésentés parmi les itinérants de Toronto. Le phénomène frappe aussi ailleurs au pays.
Les seuls moyens financiers auxquels ils ont droit, c'est l'aide sociale. Une personne célibataire perçoit 700 $ par mois, alors qu'une seule chambre pour célibataire va commencer justement dans les 700 $, dans le meilleur des cas, 800 $, 900 $.
Il est du Sénégal qu'il a quitté il y a 2 ans. Il refait sa vie comme enseignant dans un village haut perché du Québec d'à peine une centaine d'habitants.
Il faut savoir s'adapter. La plus belle leçon que j'ai apprise au Québec, c'est l'adaptation. Et à chaque fois, je rappelle ça à mes élèves. Votre langue compte. Votre vie antérieure compte. Votre culture compte. Mais essayez de vous adapter par rapport à ce qui se fait au Québec. Et vous n'allez pas le regretter.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Bienvenue, merci d'être là, Boris Chassagne, avec vous pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, on traverse 4 provinces canadiennes. Des manifestations de soutien à l'Ukraine ont été, vous l'avez vu, organisées aux 4 coins du pays le week-end dernier, dans 50 de villes canadiennes, en fait, dont à Toronto, Halifax, Montréal, Québec et Ottawa. Des manifestants d'origine ukrainienne et de tous les horizons sont venus témoigner leur solidarité envers ce peuple qui subit depuis 3 ans les assaut de la Russie, ceci pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls à se rappeler le triste 3e anniversaire de l'invasion russe déclenchée le 24 février 2022. Après des années de guerre, les Ukrainiens se disent épuisés, on n'a pas de difficulté à le comprendre. Ils étaient 100 à Québec à se tenir debout devant l'Assemblée nationale pour manifester leur soutien à Kiev et pour appeler la communauté internationale à mettre fin à l'agression russe. Plusieurs Ukrainiens s'inquiètent pour leur pays au moment où Washington se rapproche de Moscou. Sur place à Québec, Alice Zanetta nous a ramené ceci dimanche dernier.
Pour nous, pour les Ukrainiens, c'est très fatigant. On est vraiment très démotivé, épuisé, découragé. On essaie d'avoir plus d'attention, plus de, je ne sais pas, plus d'aide, parce que comme je disais tantôt, 3 ans, c'est beaucoup.
Après 3 ans de guerre et un rapprochement entre Washington et Moscou, le désespoir gagne plusieurs Ukrainiens, comme Bohdana Paroda, la présidente de l'Alliance des Ukrainiens de Québec et dont la famille vit toujours en banlieue de Lviv.
C'est sûr et certain qu'on veut réveiller la démocratie de tout le monde. C'est pour ça qu'il y a les manifestations à chaque ville, à chaque pays. C'est notre cri, notre message au monde qu'il faut vraiment réagir parce que le mal qui n'est pas puni tout de suite, elle peut provoquer les mal plus grands et plus globales, même une tragédie mondiale. Trump, il réagit de leur côté de la planète aussi, et Canada est en danger énorme. Donc il faut réagir rapidement, il faut que l'Europe réagisse, que tout le monde entier réagisse.
Dans la foule devant l'Assemblée nationale du Québec, Olga Kachouk tient dans ses mains une pancarte où l'on peut lire « Poutine, assassin ». Cette psychologue, qui a fui son pays au début de l'invasion russe, a dû laisser derrière elle sa famille. Elle est venue au rassemblement avec son conjoint, Louis Houdet.
Beaucoup d'attaques, beaucoup de bombes, beaucoup pleurer pour pouvoir mon fils et ma fille, ukrainiens.
Son fils, son épouse et les deux enfants, deux grandes filles. Ils sont à Kiev et tous les jours, il y a des alarmes aériennes. Tous les jours, ils doivent se protéger.
Comme Olga, son compagnon Louis dénonce la désinformation propagée par le dirigeant américain Donald Trump qui a récemment accusé l'Ukraine d'avoir démarré le conflit avec la Russie.
Les Russes massacrent les Ukrainiens depuis des centaines d'années. Ça date pas d'hier. Et l'Ukraine n'a jamais attaqué la Russie.
Ces derniers jours, Trump a également qualifié le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, de dictateur. Pour rappel, Zelensky a été élu démocratiquement en 2019. Aucun scrutin n'a eu lieu depuis le début de l'attaque russe, puisque l'Ukraine est sous loi martiale. Zelensky s'est d'ailleurs dit prêt à quitter la présidence en échange de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, afin que le pays bénéficie d'une protection militaire.
Le 24 février 2022, le ciel de l'Ukraine s'est assombri sur les bruits des bombes.
Alexandre est russe. Il vit au Québec depuis 6 ans avec sa conjointe qui est ukrainienne. Il est venu aujourd'hui apporter son soutien à l'Ukraine.
C'est difficile, c'est juste très difficile. C'est comme mes amis d'enfance, ils sont en train de tuer les amis de ma blonde. C'est horrible. Puis je suis complètement détaché, déraciné à cause de ça, parce que je ne peux pas accepter ça. C'est pour ça que j'ai dû couper toutes mes racines, littéralement. Puis c'est juste très difficile.
Dans ce contexte de rapprochement entre les États-Unis et la Russie de Vladimir Poutine, qui compte signer un accord de paix sans l'Ukraine, le ministre fédéral et député de Québec, Jean-Yves Duclos, dit que le Canada doit multiplier ses efforts diplomatiques, en plus d'envoyer davantage d'aide humanitaire en Ukraine.
Le Canada s'organise avec les pays européens pour appuyer davantage l'Ukraine, parce que la paix en Ukraine qui va arriver un jour doit être durable, parce qu'autrement, la Russie, le président Poutine vont continuer à faire beaucoup de mal à notre humanité et à l'Ukraine et aux pays voisins. Et au Canada, on n'est pas non plus à l'abri des vents sombres qui nous arrivent d'un peu partout, y compris du sud de la frontière. Fait qu'il faut aussi se tenir debout pour la démocratie, la paix et la justice ici même au pays.
La présidente de l'Alliance des Ukrainiens de Québec, Bohdana Paroda, rappelle que chacun peut aider les Ukrainiens en faisant des dons.
On ramasse tout, on ramasse le chauffement, les médicaments. Récemment, nous avons reçu un don d'une clinique médicale qui a donné 23 boîtes de médicaments. Donc, on a tout envoyé en Ukraine. Donc, chacun peut contribuer.
Zanetta pour IJL à Québec.
On entendait dans ce reportage la voix du ministre fédéral canadien Jean-Yves Duclos. Eh bien, le gouvernement canadien est passé de la parole aux actes et il a, le week-end dernier, réitéré son soutien à l'Ukraine. Le premier ministre canadien Justin Trudeau, qui, avant de quitter son poste le 9 mars prochain, a promis 25 véhicules de combat d'infanterie supplémentaires, des simulateurs de vol F-16, des munitions et de l'argent, en fait, dit-il dans la presse, la première tranche de l'aide de 5 milliards de dollars à l'Ukraine, financée à même les revenus des avoirs russes gelés. M. Trudeau, qui, cité dans le quotidien québécois La Presse, a déclaré « Il s'agit d'une guerre d'agression contre le peuple, la culture, l'identité et l'existence même de l'Ukraine, mais c'est aussi une guerre contre notre mode de vie, c'est une guerre contre la démocratie, contre l'état de droit, contre l'autodétermination, contre la justice et la vérité. » Fin de citation. Rappelons que près de 300 000 Ukrainiens ont trouvé refuge au Canada depuis l'invasion russe. Près de 1,3 million de Canadiens sont aujourd'hui d'origine ukrainienne, ce qui en ferait le plus grand groupe slave au Canada, rapporte Statistique Canada et l'Encyclopédie canadienne. «
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca. Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca.
Dirigeons-nous vers l'Ontario où l'on observe que les demandeurs d'asile au Canada sont de plus en plus nombreux à vivre l'itinérance, surtout dans les grands centres urbains comme Toronto et Montréal. Selon une étude menée par l'équipe de recherche sur l'immigration au Québec et ailleurs et Médecins du Monde au Canada, le nombre de demandeurs d'asile dans les refuges a augmenté de 500% entre 2021 et 2023 à Toronto seulement. Laetitia Ouinega, gestionnaire du programme d'aide au logement au Centre francophone du Grand Toronto, et Jessica Soto, directrice générale de Diogène, sont au micro d'Annette Minka à Toronto.
La situation pour les sans-abri est au centre des préoccupations dans les deux plus grandes villes du Canada. Depuis quelques années, des nouveaux visages apparaissent dans l'itinérance, comme le souligne Laetitia Ouineza, gestionnaire du programme d'aide au logement au Centre francophone du Grand Toronto.
La catégorie la plus touchée par l'itinérance à Toronto, ce sont les demandeurs d'asile. Et j'ai vraiment senti la crise, le pic, en été 2023. Je pense que c'est un phénomène qui était très visible parce qu'ils étaient dans la rue. Heureusement qu'il y avait de bonnes températures.
Même son de cloche pour Jessica Soto, qui est la directrice générale de Diogène, un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux personnes vivant avec un problème de santé mentale lié à des difficultés d'itinérance à Montréal.
Mais dans les dernières années, on a beaucoup commencé à recevoir des demandes pour des réfugiés, ce qu'on ne voyait pas avant. Avant, on pouvait avoir des immigrants, mais des résidents permanents ou des personnes qui sont ici depuis longtemps. Mais après la pandémie, on a commencé à recevoir beaucoup, beaucoup de demandes des personnes en demande d'asile, avec qui c'est beaucoup plus complexe.
L'itinérance au Canada connaît une transformation, notamment en raison de l'augmentation du nombre de migrants, en particulier des demandeurs d'asile. Ceux-ci représentent de nouveaux visages dans le phénomène de l'itinérance, car leur parcours migratoire compliqué et les politiques d'immigration en évolution les laissent souvent sans soutien adéquat.
Les demandeurs d'asile, c'est des personnes qui viennent sans aucune préparation, à cause des circonstances qui leur forcent à quitter leur pays d'origine. Ils viennent au Canada et contrairement aux immigrants réguliers qui viennent avec la résidence permanente, ils ont eu beaucoup d'années de se préparer, ils ont des compétences linguistiques, ils ont fait un peu d'économie, alors ils sont bien armés pour commencer leur vie au Canada. Les demandeurs d'asile n'ont aucune préparation. Ils ont été forcés d'entrer au Canada. Il y en a qui ne parlent même ni l'anglais ni le français. Ils n'ont pas de moyens financiers. Et beaucoup ont des traumatismes aussi liés à leur vécu. Ils viennent affronter le marché locatif dans la région du Grand Toronto, qui déjà est très connu pour être très prohibitif.
Face à cette situation, des organismes tels que Diogène mettent en place des programmes d'accompagnement visant à fournir un hébergement adapté aux migrants en situation de précarité. Mais l'offre pour les demandeurs d'asile à Montréal reste limitée.
À Montréal, il y a beaucoup d'organismes qui viennent en aide aux personnes immigrantes, aux demandeurs d'asile. Mais au niveau institutionnel, il y a seulement une institution, un seul organisme qui s'occupe, qui est PRAIDA. Mais il y a, je dirais qu'on est un peu pauvre au niveau des connaissances de comment venir en aide aux personnes qui ont un statut de réfugié ou qui sont en train d'essayer de l'obtenir.
Le Centre francophone du Grand Toronto met également en place différents programmes d'accompagnement vers des refuges. Mais encore là, ces programmes d'accompagnement se complexifient face à la temporalité des refuges.
La seule chose qu'on peut faire pour eux, c'est de leur trouver des refuges. Mais avec la recrudescence de demandeurs d'asile, les refuges de Toronto sont pleins. Alors, soit ils restent dans la rue en attendant qu'il y ait des places qui se libèrent dans les refuges, excepté pour les familles avec de petits enfants, des enfants mineurs, qui ne peuvent pas vivre dans la rue. Alors, les municipalités, donc surtout la ville de Toronto, paient des places d'hôtel pour ces familles en attendant qu'ils trouvent des places dans des refuges. Grâce à un financement à la ville de Toronto, c'est un financement qu'on appelle le Bridging Fund. On continue à les accompagner. Et quand ils vont dans des refuges, ceci dit en passant, le passage dans un refuge pour personnes sans-abri est de 3 à 4 mois. Mais avec les conditions très prohibitives du marché locatif de Toronto, les familles ou les individus restent dans des refuges. Les seuls moyens financiers auxquels ils ont droit, c'est l'aide sociale. Une personne célibataire perçoit 700 dollars par mois. Ça, c'est le logement et les autres frais de subsistance inclus. Alors qu'une seule chambre pour célibataire va commencer justement dans les 700 dollars, dans le meilleur des cas, 800 dollars, 900 dollars. Alors, ils sont bloqués dans les refuges.
Malgré tout, comme l'explique Laetitia, des efforts sont en cours de la part des autorités pour améliorer les conditions d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile.
Il y a une subvention au logement qui s'appelle, c'est le Canada Ontario Housing Benefit, qui leur permet de quitter le refuge et d'aller chercher des logements dans des marchés locatifs. L'avantage de cette subvention au logement, c'est qu'ils peuvent trouver un logement à travers toute la province de l'Ontario. Contrairement à la subvention au logement classique que nous connaissons, qui s'appelle en français le loyer indexé sur le revenu, qui est vraiment lié à un logement, et si vous quittez ce logement, vous perdez la subvention au logement. La crise des demandeurs d'asile de 2023, en fait, a fait réfléchir les gouvernements provinciaux. Il y a eu beaucoup d'initiatives. Je sais, par exemple, je travaille aussi dans la région de Peel. Il y a beaucoup d'initiatives en cours.
La ville de Toronto compte actuellement 7 centres de réchauffement. 5 d'entre eux ouvrent lorsqu'il fait moins 5 degrés ou moins. 2 autres centres ouvrent quand la température est inférieure à moins 15 degrés. Selon les données de la ville, environ 225 personnes appellent le centre des refuges chaque soir sans qu'on parvienne à leur trouver un lit. Face à cette situation, la ville a annoncé qu'elle ouvrira 6 nouveaux refuges pour sans-abri. 2 d'entre eux devraient ouvrir dès 2027. Les 4 autres devraient ouvrir entre 2028 et 2030. C'est la première étape d'un plan pour construire 20 refuges, totalisant 1600 places d'ici 2033. Enfin, le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de l'aéroport Pearson, annoncé par Ottawa pour la première fois à l'automne 2023, a finalement ouvert ses portes le 1er février 2025. Un projet qui permet à la région de générer l'arrivée mensuelle de centaines de demandeurs d'asile et qui pourrait servir de modèle à d'autres régions au Canada. Le centre d'accueil pour demandeurs d'asile compte 680 lits selon la municipalité régionale de Peel. C'était un reportage d'Annette Minka dans le cadre de l'initiative Journalisme local à Toronto.
Tous nos journalistes vous attendent sur fréquenceinfo.ca. Winnipeg accueillait le week-end dernier, en même temps que le Festival du Voyageur, une trentaine de jeunes venus de toutes les provinces et territoires du Canada. Ceci dans le cadre de la rencontre annuelle des conseils d'administration et des conseils de direction de la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Cet événement, qui avait cours du 20 au 23 février, a permis aux représentants jeunesse de discuter de l'avenir de la FJCF et d'évaluer le degré d'avancement des projets en cours. Ici, quelques commentaires recueillis par Gaëlle Mpoyou à Winnipeg.
Fait qu'on se rencontre quelques fois par année en présentiel pour discuter des actualités, des enjeux, de ce qu'on fait un peu à chacun de nos organismes.
Geneviève Poitras, vice-présidente du Conseil jeunesse de la Colombie-Britannique à Vancouver.
Évidemment, on a beaucoup de choses qui arrivent dans la communauté canadienne, je dirais, en termes de politique, puis des choses comme ça. Alors, on essaye vraiment de donner des outils et des ressources aux jeunes pour qu'ils sachent leurs droits, puis tout ce qu'on a besoin de savoir pour peut-être voter pour la première fois ou peut-être voter une deuxième, troisième fois même. Mais aussi, on va juste vraiment discuter de comment ça va nos organismes, comment va la FJCF et comment on voit la FJCF dans le futur et nos organismes travailler ensemble pour plusieurs enjeux qui sont super spéciaux et les discussions vont être super enrichissantes, je dirais, à travers les différents organismes, puis on s'inspire de l'un et l'autre.
Pascal Marsan-Johnson, directrice générale, exprime également son bonheur d'être présente.
Je trouve, en tout cas, pour nous, à Vancouver, on n'a pas toujours ces gros moments de rassemblement où la communauté est vraiment plus récente. En Colombie-Britannique, la communauté francophone, fait que c'est vraiment spécial pour moi de pouvoir être là puis d'avoir un peu cette ambiance plus communautaire, culturelle, qu'on a moins souvent la chance de voir à Vancouver.
Alors, à Vancouver, quelle est la dynamique de la jeunesse francophone? Est-ce qu'elle est entreprenante?
Ouais, ben, les jeunes sont vraiment engagés chez nous. Nous, notre gros défi, en tout cas, c'est que les jeunes francophones se trouvent vraiment très répartis en province.
Oui.
Fait qu'on a une grande population de francophones à Vancouver, mais on commence aussi à avoir plus de gens qui se trouvent sur l'île de Vancouver, dans l'Okanagan, en région. Fait que ça peut aussi rendre ça parfois un peu plus difficile de rassembler tout le monde parce qu'on est loin, puis c'est pas toujours facile de voyager en province. Mais les jeunes sont très engagés, les jeunes sont intéressés d'être là, sont présents à nos activités, puis je pense qu'ils veulent vraiment redonner à la communauté, puis trouver leur place, un peu leur appartenance dans tout ça.
Derek Bentley, qui est directeur du Conseil jeunesse provincial au Manitoba, souligne l'importance de ces échanges pour l'avenir de la jeunesse française du Canada.
La Fédération de la jeunesse canadienne-française, un peu leur CA, pas complètement, mais disons leur CA est composée de un jeune de chaque province et territoire, les membres de la FJCF, ainsi que les directions générales viennent aussi. Donc c'est vraiment, disons, une rencontre de CA de 3 jours, mais c'est certain qu'avec le Festival du Voyageur, l'idée c'était de faire ça en même temps. Donc ils sont ici pour des rencontres officielles, mais on va avoir du fun en soirée au festival.
Cette rencontre annuelle constitue un moment clé pour renforcer la structure organisationnelle et favoriser une meilleure collaboration entre les différentes régions du pays, tout en célébrant la francophonie canadienne dans un contexte dynamique et inspirant. Winnipeg, Gaël Poyou pour EGL.
Point de vue, l'info locale, partout au pays.
Et on conclut cette édition de Point de vue sur le récit inspirant d'un Sénégalais qui quitte tout pour se retrouver aujourd'hui dans un village d'une centaine d'habitants de la Basse-Côte-Nord au Québec, celui de Tête-à-la-Baleine. Ceci pour y enseigner la francisation, l'anglais, les mathématiques et les sciences. Maguey Diallo est devenu le nouveau professeur du coin. Il a été recruté par le Centre de services scolaires du littoral pour donner des cours aux élèves de l'école Gabriel Dionne. Il en a fait du chemin, lui et sa femme, avant d'atterrir dans ce petit village d'une centaine d'habitants. Originaire de la ville de Campbell au Sénégal, il est en poste depuis environ 3 mois et il enseigne 5 niveaux scolaires en simultané. Il partage ici sa vision de sa profession et son parcours avec Frédéric Lévesque.
Un nouveau professeur enseigne à l'école Gabriel Dionne depuis le mois de décembre 2024. Maguey Diallo, originaire d'une ville à 70 km de Dakar au Sénégal, est arrivé au Québec en juillet 2023. Maintenant établi au village de Tête-à-la-Baleine, il s'occupe de 5 niveaux d'apprentissage en simultané. Il enseigne la francisation des 3 élèves d'origine ukrainienne au village, l'anglais au niveau du secondaire, ainsi que des sciences et les mathématiques au niveau primaire et secondaire. Maguey cumulait déjà plusieurs années d'expérience dans sa profession avant d'immigrer.
Parce que moi, je suis enseignant de formation. J'ai enseigné au Sénégal j'ai commencé à enseigner depuis 2006. 2006, c'était ma deuxième année de l'université. Donc nous, on a ce qu'on appelle la licence. Au lieu du baccalauréat canadien, nous, on a la licence. C'est le système français. Donc vous faites 2 ans, 3 ans, vous avez votre licence à l'université. Donc c'était à ma deuxième année d'université que je suis parti enseigner.
Ce qui a attiré Maguey Diallo vers l'enseignement, c'était le sens du devoir, comme il nous l'explique.
On était en train de recruter des enseignants et ça manquait beaucoup dans le milieu rural aussi. Mais bon, Dieu a fait que moi j'ai été recruté, mais je suis resté toujours dans la capitale. J'ai commencé à enseigner dans la capitale. Donc toute ma carrière, je l'ai fait dans la capitale. Je n'ai pas eu la chance d'aller enseigner en communauté, mais quand même j'ai vécu en communauté.
La vision de l'enseignement de Maguey est orientée vers la communauté. Le concept à la base de cette vision serait le lien de confiance qui se développe entre le professeur et la communauté.
Je suis de confession musulmane et nous, chez nous, on dit qu'en réalité, ce n'est pas toi qui enseignes. C'est le bon Dieu qui enseigne. Toi, on t'a choisi pour transmettre. Donc, quand Dieu t'a choisi, ce n'est pas donné à n'importe qui d'aller transmettre ce savoir-là. Donc, montre au bon Dieu et à la communauté aussi qui t'a choisi aussi que toi, tu mérites ça. Et que aussi, la communauté, ce n'est pas facile aussi de prendre ton enfant, de le remettre en un enseignant. C'est très difficile. Mais si la communauté te fait confiance et qu'elle te remette du moins son enfant, c'est à toi maintenant de te battre pour montrer à la communauté que ça vaut la peine. En réalité, c'est comme ça que je vois les choses.
Après son arrivée au Canada, Maguey enseigne d'abord brièvement dans le sud, mais c'est dans le nord du Québec, ici à Tête-à-la-Baleine, qu'il décide ensuite de s'établir pour poursuivre sa carrière. Il s'agissait là d'un conseil de la personne qui a accueilli Maguey dans la province. Le processus de Maguey pour obtenir son autorisation d'enseignement au Québec a commencé avec une évaluation comparative des diplômes d'enseignement entre le Canada et le Sénégal. Ensuite, il a dû déposer des documents en vue d'une évaluation gouvernementale et il a été admis à l'examen au test de certification en français écrit pour l'enseignement, le TECFE. L'adaptation à un nouvel environnement amène certains défis, comme nous l'explique Maguey en parlant de l'arrivée de sa conjointe Mam Sirasamb, qui est venue le rejoindre au Québec et qui l'accompagne dans son projet d'enseignement au village. Mam Sirasamb est également enseignante de formation. Elle a plus de 5 ans d'expérience dans l'enseignement en petite communauté.
Au début, c'était un peu difficile parce que vous ne pouvez pas laisser votre vie là-bas, votre travail, votre salaire, tout. Votre famille, tout, vous laissez là-bas. Vous venez ici avec votre mari. Vous ne trouvez pas de travail. Il y a le mari qui travaille. Alors que toi, tu étais active. Elle était très active. Donc, elle vient, elle arrive là, elle ne bouge plus. Donc, c'est un peu difficile pour elle. Mais quand même, on s'en sort. On se dit que c'est... Il faut s'y faire. Il faut savoir s'adapter. Et que la plus belle leçon que j'ai apprise au Québec, c'est l'adaptation.
Si l'enseignement se fait selon le modèle français au Sénégal, ce n'est pas cette différence qui a constitué le plus grand défi pour Maguey dans son rôle de professeur au Québec. C'est plutôt le fait d'être assigné à une classe d'accueil lors de son premier mandat dans une école de Laval, juste après son arrivée au Québec.
J'avais des élèves qui venaient de différents pays, de Syrie, de l'Afghanistan, du Mexique, de la Colombie. Voilà. Donc il fallait créer une nouvelle communauté avec ces élèves-là.
Cela a amené le professeur à développer une philosophie autour de l'apprentissage du français qu'il transmet à ses étudiants et étudiantes.
Mon élève qui vient hors du Québec, hors du Canada, c'est quelqu'un qui ne vient pas seul. Il vient avec un bagage très lourd sur le plan pédagogique. Des fois, c'est de bons élèves au niveau de leur pays. Mais quand il arrive ici, c'est la langue qui pose problème. Et à chaque fois, je rappelle ça à mes élèves, votre langue compte, votre vie antérieure compte, votre culture compte, mais essayez de vous adapter par rapport à ce qui se fait au Québec. Et vous n'allez pas le regretter. Vous avez beaucoup d'opportunités, donc il faut savoir les exploiter. Et pour pouvoir les exploiter, c'est la première chose, c'est la langue.
Un autre défi important pour Maguey et sa conjointe Mam est celui du manque de luminosité et la température froide des hivers québécois.
Bon, tout d'abord, c'était le froid. Nous, on ne connaît pas le froid comme ça. Et surtout pour elle aussi. Moi, j'ai passé un hiver, j'ai résisté, mais au début, c'était très difficile. Et que nous, on est ensoleillé 12 mois sur 12. Le soleil, pour nous, c'est comme une motivation. Sans le soleil, rien ne fonctionne chez nous. Mais tu arrives ici, tu ne vois pas le soleil. Tu restes des jours sans voir le soleil. Voilà. Mais maintenant, on s'y habitue quand même. Voilà, voilà. Par contre, à tête à la baleine quand même, j'ai cette chance de voir le soleil. Voilà. À Montréal, Brossard, c'était un peu difficile de voir le soleil une semaine, hein, une fois par semaine. C'était difficile.
Malgré ces défis, l'accueil de la population et le calme de la communauté de tête à la baleine ont mis le couple à l'aise en leur rappelant leur ancien mode de vie au Sénégal. C'était Frédéric Lévesque à tête à la baleine pour l'IJL.
Et c'est là-dessus qu'on conclut cette édition de Point de vue. Merci à nos journalistes Gaël Mpoyo, Frédéric Lévesque, Alice Zanetta et Annette Minka. Merci à Julia Chénu, notre rédactrice nationale. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire et de l'initiative de journalisme local. Boris Chassagne avec vous à l'animation et à la réalisation. Merci d'être là chaque semaine. Vous voulez nous dire un mot, écrivez, si ça vous tente, radio@fréquenceinfo.ca, radio@fréquenceinfo.ca. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.